Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2. Chapitre 20. Nicholas commence par désespérer de sauver Madeleine Bray, mais ensuite il reprend courage et veut faire un effort. Détails domestiques sur les Kenwigs et les Lillivicks. Voyant que Newman était résolu à employer tous les moyens pour arrêter sa marche, et craignant que quelques passants malencontreux attirés par les cris de « Arrêtez le voleur !» ne lui mit en effet la main sur le collet et ne le plaça dans une position désagréable dont il ne pourrait se tirer sans quelques difficultés, Nicholas se mit à ralentir le pas et se laissa rejoindre par Newman Nodge. Et il était grandement temps, car le malheureux clerc était tellement essoufflé qu'il n'aurait pas pu tenir une minute de plus. « Je vais de ce pas chez Bray, » dit Nicholas. « Je veux le voir, et si je n'éveille pas chez lui quelques sentiments d'humanité, quelques étincelles d'affection pour sa fille, privée de l'appui d'une mère et des secours de l'amitié, c'est qu'il ne bat plus rien dans sa poitrine. »«
Vous n'en ferez rien, » répliqua Newman. « Gardez-vous-en bien. »
« Eh bien, alors !» dit Nicholas avec la même vivacité. « Je vais suivre ma première idée. Je vais tout droit chez Ralph Nickleby. »«
Pendant que vous ferez le chemin, il sera déjà au lit. »«
Je saurai bien l'en faire sortir !» dit Nicholas.
« Bah, bah !» dit Nodge. « Calmez-vous !»«
Écoutez !» repartit Nicholas après un moment de silence, en tenant, pendant qu'il parlait, la main de son ami dans la sienne. « Vous êtes le meilleur de mes amis, Newman. J'ai déjà résisté à bien des épreuves. Mais aujourd'hui, l'événement dont il s'agit détruit le bonheur d'une autre et d'une manière si cruelle que je vous déclare que vous voyez en moi un homme réduit au désespoir. » Et en effet, il semblait qu'il n'y eût pas d'espoir. Quel usage faire du secret que Newman avait surpris du fond de son armoire ? Il n'y avait rien dans le complot formé entre Ralph, Nickleby et Grid qui pût donner prétexte à une opposition légale contre le mariage. Rien même qui pût y faire renoncer Bray, qui certainement, sans en connaître positivement les détails, devait en soupçonner le fond. Quant aux intérêts cachés que quelques mots d'Arthur Grid n'avaient guère fait qu'indiquer, il était évident qu'il y avait là encore quelques fraudes nouvelles dont Madeleine était victime. Mais dans la bouche de Newman Nodge, et sous l'influence répétée de son pistolet de poche, les détails en restaient tout à fait inintelligibles et plongés dans les plus profondes ténèbres.
« Je ne vois pas le moindre rayon d'espérance, » dit Nicholas.
« Raison de plus pour garder son sang-froid, sa raison, sa réflexion, sa tête bien libre, »
dit Newman, pesant sur chaque mot alternativement, et s'arrêtant pour en voir l'effet sur le visage de son ami.
« Où sont les frères ?»«
Ils sont tous deux à l'étranger pour affaires de commerce, et ils ne reviendront pas avant 8 jours. »«
Mais n'y a-t-il pas moyen de correspondre avec eux, d'en avoir seulement un à Londres demain soir ?»«
Impossible, » dit Nicholas. « La mer nous sépare. En supposant que les vents soient les plus favorables, l'aller et le retour seuls nous prendraient 3 fois 24 heures. »
« Et le neveu ?» dit Newman. « Ou le vieux caissier ?»«
Et que ferait-il de plus que moi ?» répliqua Nicholas. « Au contraire, c'est avec eux surtout qu'on m'a recommandé le silence le plus discret sur ce sujet. Quelle excuse pourrais-je donner pour avoir trahi la confiance que l'on me montre, lorsqu'il n'y a qu'un miracle qui puisse sauver la victime ?»«
Réfléchissez !» dit Newman avec insistance. « N'y a-t-il pas quelque moyen ?»«
Non !» dit Nicholas dans un profond abattement. « Non, le père presse le mariage, la fille y consent. Les deux démons qui la poursuivent la tiennent maintenant dans leurs griffes. Ils ont pour eux la loi, l'autorité, la force, l'argent, le crédit. Quel espoir voulez-vous qu'il me reste ?»«
L'espoir jusqu'au tombeau !»
dit Newman en lui donnant une tape d'encouragement sur le dos.
« Toujours l'espoir !» C'est un bon et fidèle ami que l'espoir. Ne l'abandonnez pas si vous ne voulez pas qu'il vous abandonne. Vous m'entendez bien ? Nicolas, cela ne sert à rien de désespérer. Il faut remuer ciel et terre. C'est toujours quelque chose que de pouvoir se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais surtout, ne jetez pas le manche après la cognée, ou ce serait plus la peine de rien faire. L'espoir jusqu'au tombeau.
Nicolas avait besoin d'encouragement. La nouvelle qu'il venait de recevoir de la conjuration des deux usuriers était venue le frapper comme un coup de foudre. Le peu de temps qui lui restait pour faire quelques efforts contraires, la probabilité, ou plutôt la certitude qu'il ne fallait que quelques heures pour lui enlever Madeleine, pour la condamner à un malheur affreux, qui sait, peut-être même à une mort prématurée, tout se réunissait pour le terrasser et l'anéantir. Il n'avait pas formé une seule espérance, il n'en avait pas couvé, sans le savoir, une seule dans son cœur pour le succès de ses amours, qu'il ne vit en ce moment tomber à ses pieds, morte et détruite à jamais. Il n'y avait pas un charme dont sa mémoire ou son imagination eût entouré son idole, qui ne vint se représenter à lui dans son angoisse pour augmenter sa peine et ajouter une nouvelle amertume à son désespoir. Il n'y avait pas un sentiment de sympathie pour le triste sort de sa jeune amie, ou d'admiration pour son héroïsme et son courage, qui ne le fit trembler d'indignation dans ses membres, et qui ne gonfla son cœur jusqu'à en rompre tous les vaisseaux. Mais si Nicolas ne trouvait dans son cœur qu'une affliction terrible, au lieu d'y trouver des ressources, heureusement celui de Newman ne lui manqua pas. Il y avait dans ses remontrances et dans ses conseils un fond d'intérêt si pressant, et dans ses manières tant de sincérité et de chaleur que, malgré leur forme étrange et bizarre, elles n'en donnaient pas moins à Nicolas une nouvelle vigueur. Et ce fut grâce à cet utile secours qu'après avoir continué de marcher avec lui un bon bout de chemin ensemble, il put dire à son ami « Je vous remercie de vos bons conseils, Newman, et j'en profiterai. Il y a encore une démarche que du moins je puis faire, que je dois faire, et je m'en occuperai demain. »«
Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nudge avec inquiétude. « Surtout, vous ne voulez pas aller menacer Ralph, hein ? Vous ne voulez pas aller voir le père ?»
Newman. « Non, » répondit Nicolas. « C'est la fille que je veux aller voir. Je veux faire tout ce qu'auraient pu faire, après tout, les frères eux-mêmes, s'ils avaient été ici, et comme malheureusement ils n'y sont pas. Je veux discuter avec elle cette union monstrueuse, lui montrer toutes les horreurs de la situation où elle est précipitée, peut-être par un entraînement téméraire et faute de réflexion. Je veux la prier au moins de prendre du temps. Il ne lui a peut-être manqué qu'un bon conseil pour la sauver. Qui sait si ce n'est pas à moi qu'il est réservé de lui faire faire ses réflexions salutaires, quoiqu'il soit déjà bien trop tard et qu'elle soit suspendue sur le bord de l'abîme.
« Voilà de braves paroles, » dit Newman. « À la bonne heure. Bravo. Oui, c'est très bien. »
« Et croyez en ma parole, » continua Nicolas dans un honnête enthousiasme. « Dans cet effort que je veux faire, il n'y a ni égoïsme, ni intérêt personnel. Il n'y a que de la pitié pour elle, de l'horreur et du mépris pour la machination auquel elle est près de succomber. Il y aurait là 20 rivaux, et 20 rivaux préférés à me disputer mon amour, que je le ferais tout de même. »
« Oui, vous le feriez, j'en suis sûr. Mais où donc courez-vous comme cela ?»«
À la maison, » répondit Nicolas. « Venez-vous avec moi, ou s'il faut que je vous dise bonsoir ?»
« Je vous accompagnerai encore un peu, si vous voulez me permettre seulement de marcher et non pas de courir comme vous le faites, » dit Nudge.
« Non, pas ce soir, » dit vivement Nicolas. « Je ne puis pas marcher votre pas. Si je n'allais pas plus vite, je sens que j'étoufferai. Demain, je vous dirai tout ce qui se sera passé. »
« Par ma foi, » dit Newman en levant les yeux, « c'est un garçon qui est parfois bien violent et je ne l'en aime que davantage. » D'ailleurs, il n'a ici que trop d'excuses, car le diable s'en mêle. Espoir, espoir, moi qui lui recommande l'espoir, quand Ralph, Nickleby et Grid ont mis leur malice en commun. Quel espoir contre de tels adversaires? Ho ho!
C'était un rire bien amer que celui qui terminait ainsi le monologue de Newman Nudge. Et le mouvement de tête dont il l'accompagna n'était pas moins triste, ni sa physionomie moins sombre, quand il revint sur ses pas et se remit péniblement en marche. En toute autre circonstance, il n'y aurait pas manqué de passer par quelque méchante taverne ou quelque cabaret, d'autant plus que cela ne l'aurait pas beaucoup dérangé. Le lecteur le prendra dans le sens qu'il voudra. Mais ce soir-là, Newman avait trop de chagrin et d'inquiétude pour attendre aucune consolation de ce remède ordinaire. Et c'est ce qui fit qu'il se rendit tout droit chez lui, en proie à son abattement et à ses réflexions mélancoliques. Or, vous saurez que Miss Morlina Kenwicks avait reçu dans l'après-midi une invitation à se rendre le lendemain par le bateau à vapeur du pont de Westminster à l'île de Pâté d'Anguille, à Wickenham. C'était une partie de plaisir avec déjeuner froid, bière en bouteille, cidre et crevettes. On devait danser en plein air au son d'un orchestre de musiciens ambulants qui s'y rendaient tout exprès. Le bateau à vapeur était loué, pour la circonstance, par un maître de danse à la mode, pour l'agrément de sa nombreuse clientèle. Et, par un retour de reconnaissance, ses élèves, pour montrer l'estime qu'ils faisaient de leur maître de danse, avaient acheté pour leur compte et fait acheter à leur ami un certain nombre de billets bleus de ciel qui leur donnaient le droit de s'associer à l'expédition. C'est d'un de ces billets bleus de ciel qu'une voisine ambitieuse avait fait hommage à Miss Morlina Kenwigs en l'invitant à venir à la fête avec ses filles. Et Madame Kenwigs, pensant, comme de raison, que l'honneur de la famille était intéressé à ce que Miss Morlina étalât la toilette la plus brillante, quoique prise au dépourvu par un si court délai, qu'il fallait faire voir au maître de danse qu'il n'était pas le seul maître de danse de ce monde, qu'il y en avait d'autres, qu'il était bon de montrer à tous les pères et mères présents dans l'île de Pâté d'Anguille que leur enfant n'était pas le seul qui puisse recevoir une jolie éducation. Madame Kenwigs, sous l'estime de ses préoccupations et pressée par les préparatifs qu'il fallait faire, s'était déjà pâmée deux fois. Mais n'importe, soutenue par la ferme résolution de faire honneur au nom de la famille ou de mourir à la peine, elle travaillait encore avec un courage infatigable lorsque Newman rentra chez lui. Madame Kenwigs avait été tellement occupée depuis le reçu du billet à repasser les collerettes, à plisser les volants, à décorer les jupes, sans compter par-ci par-là un évanouissement ou deux, ce qui prend toujours un peu de temps, qu'il n'y avait pas plus d'une demi-heure qu'elle venait de s'apercevoir que les blondes queues de Miss Morlina étaient devenues trop longues, ou comme on dit montées en graines, et qu'à moins de passer par les mains d'un coiffeur habile, loin de remporter, sur les filles de ses autres papas et mamans dont on s'était promis la honte, une victoire signalée, c'était elle, au contraire, qui éprouvait un échec humiliant. Cette découverte avait jeté Madame Kenwigs dans le désespoir. Car, pour aller jusque chez le coiffeur, il fallait traverser trois rues au risque des voitures. Il était impossible de penser à laisser Morlina y aller seule. Quand même, la décence l'aurait permis, et Madame Kenwigs était très scrupuleuse sur les convenances. D'un autre côté, Monsieur Kenwigs n'était pas revenu de sa journée, et personne pour conduire Morlina chez le coiffeur. Madame Kenwigs en était si outrée qu'elle commença par claquer Miss Kenwigs comme étant la cause de ses contrariétés. Puis elle finit par verser des larmes. « Ingrate enfant que vous êtes » disait-elle, « après toute la peine que je me suis donnée pour vous ce soir !»« Mais maman, ce n'est pas ma faute !» répliqua Morlina aussi tout en larmes. « Comment voulez-vous que j'empêche mes cheveux de grandir ?»« Taisez-vous, vilaine petite fille !» dit Madame Kenwigs. « Ne me parlez pas !» Quand je voudrais vous laisser aller seule, au risque d'être poursuivie par des insolents, ne sais-je pas bien que vous n'auriez rien de plus pressé que d'aller dire à Lord Shopkins, c'était la fille de l'ambitieuse voisine, la robe que vous allez mettre demain, je vous connais bien, vous n'avez pas du tout d'amour-propre, et il n'y a pas à vous perdre de vue un seul instant. Tout en déplorant, en ces termes, les dispositions perverses de sa fille aînée, Madame Kenwigs faisait encore couler de ses yeux de nouvelles larmes de contrariété et finit par déclarer qu'elle ne croyait pas qu'il y eût au monde personne de si malheureux qu'elle.
Là-dessus, Miss Morlina Kenwigs versa aussi de nouvelles larmes, et la mère et la fille se mirent ensemble à sangloter à qui mieux mieux. Voilà où en étaient les choses lorsqu'on entendit d'en haut le pas boitillant de Newman qui grimpait l'escalier. Aussitôt, l'espérance rentre dans le cœur maternel avec le bruit de ses pas bienheureux et ne laisse plus sa physionomie que de légères traces de sa dernière émotion. Elle va donc au-devant de son voisin sur le palier et lui expose leur embarras en finissant par le supplier d'escorter Morlina jusque chez le coiffeur.
« Je n'aurais jamais osé, Monsieur Nudge, vous demander ce service, si je ne connaissais pas toute votre bonté, toute votre obligeance. Oh non, jamais, je ne suis qu'une femme, Monsieur Nudge. Mais rien au monde ne pourrait me décider à demander une faveur à quelqu'un que je croirais capable de me la refuser. Pas plus qu'avoir mes enfants écrasés et foulés aux pieds par la basse jalousie des envieux. » Madame Kenwigs n'aurait pas fait toutes ces déclarations à Newman qu'il était assez bon enfant naturellement pour ne pas lui refuser ce bon service. Aussi, en moins de 2 minutes, Miss Morlina et lui étaient en route pour la boutique du coiffeur. Ce n'était pas exactement une boutique de coiffeur. À la voir, les gens grossiers qui ont un tour d'esprit vulgaire et commun auraient plutôt dit que c'était une boutique de barbier. Le fait est qu'on ne s'y bornait pas à tailler et à friser avec élégance les cheveux des dames et à soigner la tête des petits-enfants, mais qu'on y faisait aussi la barbe d'une manière légère. Mais cela n'empêchait pas que ce fût un établissement tout à fait distingué. Des gens même disaient de premier ordre. Et de fait, on y voyait, dans la montre, avec d'aussi jolies choses, le buste en cire d'une belle blonde et d'un beau brun qui faisait l'admiration de tout le voisinage. Il y avait même des dames qui étaient allées jusqu'à dire que le beau brun n'était rien autre chose que le portrait véritable du jeune et aimable propriétaire de l'établissement. Ce qui donnait quelque valeur à cette assertion, c'était la grande ressemblance qu'il y avait entre la coiffure de la tête réelle et vivante et celle de sa tête de cire. En effet, elles étaient aussi luisantes l'une que l'autre. Elles avaient toutes deux, au milieu, une ligne droite, tracée au cordeau comme une allée de jardin, et des deux côtés une égale profusion de boucles circulaires, retroussées en l'air comme un accroche-cœur. Mais cependant, les personnes du sexe les mieux informées ne faisaient aucun cas de cette assertion, car, sans vouloir faire tort, elles étaient trop justes pour cela, à la jolie figure et à la belle tournure du propriétaire, elles regardaient la tête du beau brun dans la montre, comme une espèce d'échantillon abstrait et parfait de la beauté masculine, qui n'était peut-être réalisable, par hasard, que chez les anges et les militaires, mais qui ramenait à la nature humaine l'honneur de s'y incorporer pour charmer les yeux des mortels. Tel était l'établissement du coiffeur où M. Nudge conduisit Mademoiselle Kenwigs, saine et sauve. Le propriétaire, qui savait que Mademoiselle Kenwigs avait 3 sœurs, chacune avec 2 queues blondes, ce qui pouvait lui rapporter au moins 1 pièce de 10 sous par tête tous les mois, planta là immédiatement un vieux monsieur qu'il venait de savonner pour lui faire la barbe, le repassant à son garçon, qui ne jouissait pas d'une grande popularité chez les dames parce qu'il était déjà d'un certain âge et qu'il prenait du ventre. Il se hâta donc de coiffer la demoiselle lui-même. Au moment où venait de s'opérer ce changement à vue, il se présenta justement pour faire raser un bon gros farceur de charbonnier, la pipe à la bouche, qui, en se passant la main sous le menton, demanda qu'il y aurait quelqu'un de libre pour lui faire la barbe. Le garçon à qui s'adressait cette question regarda son jeune patron d'un air indécis, comme un homme qui ne veut pas se compromettre avant de savoir ce qu'il doit répondre. Le jeune propriétaire jette alors sur le charbonnier un regard méprisant et lui dit « On ne peut pas vous faire la barbe ici, mon pauvre garçon !»«
Pourquoi donc ?» dit le charbonnier.
« On ne fait pas ici la barbe aux personnes de votre classe !»«
Bah !» dit le charbonnier. « La semaine dernière, en regardant par la fenêtre, je vous ai vu faire la barbe à un boulanger !»«
Il faut bien, mon garçon !» répliqua le jeune propriétaire. « S'arrêter quelque part !» Nous n'allons pas au-dessous des boulangers. Si nous descendions plus bas, nos pratiques nous laisseraient là
et nous n'aurions plus qu'à mettre la clé sous la porte. Il faut que vous alliez chercher ailleurs. Cela nous serait impossible ici. »
Le postulant se mit à regarder en face, puis à lui faire une grimace en se tournant du côté de Newman, qui paraissait charmé de cette occasion de rire, promenant ensuite autour de la boutique des yeux narquois qui n'avaient pas l'air d'avoir grande idée de la qualité des pots de pommade et autres articles étalés en vente. Il ôta sa pipe de sa bouche, siffla tout haut en guise d'adieu, remit sa pipe et s'en alla. Le vieux monsieur qu'on venait de savonner et qui était là, sur une chaise, tourna tristement la tête au mur vis-à-vis. Il ne parut pas seulement s'apercevoir de cet incident, tant la rêverie profonde où il était plongé le rendait insensible à tout ce qui se passait autour de lui. Et il fallait que cette rêverie fût d'une nature bien lugubre, à en juger par les soupirs qu'il poussait de temps en temps. Le propriétaire se mit donc à coiffer Mademoiselle Kenwigs. Le garçon a ratissé sa victime et Newman à lire le journal de dimanche dernier. Mais tous trois en silence, car la tristesse du vieux monsieur semblait les avoir gagnés tous. Lorsque Miss Kenwigs laissa échapper un petit cri perçant qui fit lever les yeux à Newman, bien étonné de voir quelle en était la cause. C'est qu'en effet, le vieux monsieur, en tournant la tête, avait montré aux yeux de sa nièce ébahie les traits de Monsieur Lillyvick, le percepteur des taxes. Certainement, c'étaient les traits de Monsieur Lillyvick, mais bien changés, par exemple. Autrefois, si jamais vieux monsieur se piquait de ne paraître en public qu'avec sa barbe parfaite et le visage frais, c'était bien Monsieur Lillyvick. Si jamais percepteur, en sa qualité de percepteur, prenait devant le monde un air de dignité solennelle, comme un homme qui porte le monde dans son registre et qui va lui demander compte de 2 trimestres en arrière, c'était bien Monsieur Lillyvick. Hélas ! Et voilà maintenant Monsieur Lillyvick assis là, sur cette chaise, avec le reste d'une barbe d'au moins 8 jours sur son menton étonné, avec un jabot de chemise sale et chiffonné sur la poitrine, au lieu de lever hardiment la crête, avec une mine si honteuse, si abattue, si découragée, si humiliée et si malheureuse, qu'on aurait réuni l'expression de mortification et de mécompte de 40 mauvaises payes à qui le percepteur vient de couper les os de la ville pour leur apprendre à être plus exacts dans leur paiement, que tout cela n'aurait rien été auprès de la mine penaude et contrite de Monsieur Lillyvick, le percepteur des taxes.
« Monsieur Lillyvick ? »
dit Newman Nodge, ne pouvant en croire ses yeux. Et Monsieur Lillyvick commença un gémissement qu'il voulut dissimuler ensuite par une petite toux, mais le gémissement était bien un bel et bon gémissement, tandis que la petite toux n'était qu'une frime.
« Oh, est-ce que vous auriez quelque chose ?»
dit Newman Nodge.
« Quelque chose, monsieur ?»
cria Monsieur Lillyvick.
« Le robinet de la vie est à sec. Monsieur, il ne reste que la lie au fond du réservoir. »
En entendant ce style, qui n'était pas très clair, mais dont il attribua le genre théâtral à son association récente avec des artistes dramatiques, Monsieur Newman se disposa à faire quelque autre question. Mais Monsieur Lillyvick, qui s'en aperçut, l'empêcha en lui serrant d'abord tristement la main dans la sienne, puis en lui faisant signe de l'autre de ne pas l'interroger.
« Laissez-moi d'abord raser, » dit Monsieur Lillyvick. « Je vais être expédié avant Morlina, car c'est Morlina, n'est-ce pas ?»«
Oui, sans doute, » dit Newman.
« Les Kenwigs aussi ont un garçon, n'est-ce pas ?»
Newman répondit encore affirmativement.
« Et est-il gentil, le garçon ?»
demanda le percepteur.
« Mais pas trop mal, »
répondit Newman, qui trouvait la question un peu embarrassante.
« Suzanne Kenwigs, » reprit l'autre, « disait souvent que, si jamais elle avait encore un petit garçon, elle espérait bien qu'il me ressemblerait. Me ressemble-t-il, monsieur Nodge ?»
Autre question embarrassante que Newman éluda en répondant à monsieur Lillyvick qu'en effet, le petit garçon pouvait bien lui ressembler plus tard.
« Je serais bien aise, » dit Monsieur Lillyvick, « d'avoir quelqu'un qui me ressemblât par quelque endroit avant de mourir.
Mourir? Vous n'y êtes pas dans tous les cas, dit Newman.
Attendez que je sois rasé, répliqua M. Lillyvick d'une voix solennelle et se remettant entre les mains du garçon. Puis il ne dit plus un mot. C'était cela qui était drôle, si drôle même aux yeux de Miss Morlina, que cette demoiselle, au risque de se faire couper l'oreille, ne put s'empêcher de se retourner plus de 20 fois pendant le précédent dialogue. Toutefois, M. Lillyvick n'eut pas seulement l'air de la connaître. Au contraire, il essayait, au moins c'était l'opinion de Newman Nodge, d'échapper à ses regards et de se replier sur lui-même toutes les fois qu'il attirait son attention. Newman se demandait avec étonnement ce qui aurait pu occasionner un pareil changement de la part du percepteur des taxes. Mais réfléchissant, en véritable philosophe, qu'il le saurait tôt ou tard et qu'il pouvait parfaitement attendre, il ne se laissa au bout du compte troubler que par le moins possible par la singularité de manière du vieux gentleman. Enfin, voilà les cheveux coupés et frisés, et le vieux monsieur, qui était resté quelque temps à attendre, se lève aussi pour s'en aller. Il prend le bras de Newman pendant que celui-ci continue dans la rue son office d'écuyer accompagnateur de Miss Kenwigs. Et il marche quelque temps avec eux sans faire la moindre observation. Newman, qui pouvait se vanter de n'avoir pas son égal pour les habitudes taciturnes, ne fit aucun effort pour rompre le silence. Aussi était-on déjà tout près de la maison quand M. Lillyvick se décida à ouvrir la bouche.
Dites-moi, Monsieur Nodge, les Kenwigs ont dû être bien saisis de cette nouvelle.
Quelle nouvelle ?
Répondit Newman. De mon
mariage ? Demanda Newman.
Ah ! Répliqua M. Lillyvick en poussant encore un gémissement qu'il ne songea même pas à dissimuler par une petite toux. « Nous l'avons tenu longtemps caché à maman, » interrompit Mademoiselle Morlina. « Mais cela ne l'a pas empêchée de bien pleurer quand elle l'a su. Papa a été aussi bien abattu, mais il va mieux maintenant, et moi aussi. J'ai été bien malade, mais je vais mieux aujourd'hui. »«
Est-ce que vous embrasseriez votre grand-oncle Lillyvick, s'il vous demandait, Morlina ?» dit le percepteur avec quelque hésitation.
« Certainement, mon oncle Lillyvick !»
répliqua Morlina avec l'énergie combinée de son père et de sa mère.
« Mais non pas la tante Lillyvick, ce n'est pas ma tante, et je ne lui donnerai jamais ce nom !»
Morlina avait à peine achevé de prononcer ces mots que M. Lillyvick l'enleva dans ses bras pour mieux l'embrasser, et voyant qu'ils étaient arrivés déjà devant la porte des Kenwigs, il monta droit à leur salon, portant toujours dans ses bras Miss Morlina, qu'il déposa au milieu de la chambre, pendant que M. et Mme Kenwigs étaient à souper. À la vue de leur oncle parjure, Mme Kenwigs devint pâle et se trouva mal, tandis que M. Kenwigs se leva avec majesté.
« Kenwigs, dit le percepteur, donnez-moi une poignée de main. »«
Monsieur, dit M. Kenwigs, il est passé le temps où j'étais fière de donner une poignée de main à un homme comme celui que je vois maintenant devant mes yeux. Il est passé, monsieur, le temps où une visite de cet homme excitait dans mon sein et dans celui de ma famille des sensations à la fois naturelles et flatteuses. Mais aujourd'hui, je regarde ce même homme avec des émotions qui surpassent tout ce qu'on peut dire, et je me demande ce qu'il a fait de son honneur et de sa loyauté, enfin, de sa nature humaine.
« Suzanne Kenwigs,
dit M. Lillyvick en se tournant humblement vers sa nièce, « est-ce que vous ne voulez rien me dire ?»«
Et comment voulez-vous qu'elle le puisse, monsieur ?»
dit M. Kenwigs en frappant sur la table avec énergie. « La nourriture d'un petit enfant bien portant, ainsi que le chagrin ressenti de votre conduite cruelle, l'ont réduite à ce point de faiblesse que c'est à peine si 4 pintes de bière par jour peuvent suffire à la soutenir. »«
Je suis charmée, » dit le pauvre percepteur avec douceur, « d'apprendre que ce soit un petit enfant bien portant. J'en suis charmé. »
C'était là prendre les Kenwigs par leur faible. Aussi, à l'instant même, Madame Kenwigs fondit en larmes et M. Kenwigs montra la plus vive émotion.
« Mon sentiment le plus cher, » dit-il tristement, pendant tout le temps que nous avons attendu la venue de cet enfant, c'était de me dire ceci. Si c'est un garçon, comme je l'espère,
car j'ai entendu dire bien des fois à son oncle Lidivic qu'il préférait que seul fût un garçon.
Si c'est un garçon, que dira l'oncle Lidivic? Quel est le nom qu'il voudra qu'on lui donne? L'appellera-t-on Pierre, Alexandre, ou Pompée, ou Diogène, ou comment?
Et aujourd'hui, quand je le regarde, pauvre enfant chéri, innocent, abandonné, tout ce qu'il peut faire avec ses petits bras, c'est de déchirer son petit bonnet. Tout ce qu'il peut faire avec ses petites jambes, c'est de se donner des coups de pied à soi-même. Quand je le vois étendu dans le giron de sa mère et dans son état d'innocence, s'étouffant presque en se fourrant son petit poing dans la bouche, quand je le vois et que je pense que son oncle Lidivic, ici présent, qui devait tant l'aimer, s'est retiré de lui, je me sens saisi d'un sentiment de vengeance impossible à décrire. Et il me semble entendre le cher et précieux enfant me dire lui-même de haïr son oncle.
Ce tableau touchant émut si profondément Madame Kenwigs qu'elle essaya longtemps, vainement, d'amener à bien quelques paroles imparfaites qui avortèrent en route, noyées et submergées dans des flots de larmes. Enfin,
« Mon oncle, dit-elle, qui l'aurait jamais cru, que vous nous tourneriez ainsi le dos, à moi, à mes chers enfants et à Kenwigs, qui est l'auteur de leur existence ? Vous, dont nous avons donné le nom au pied de l'autel à notre premier petit enfant, ah, pensée cruelle !
Croyez-vous, dit M. Kenwigs, que nous pensions à l'argent ? Croyez-vous que notre chagrin eut un motif intéressé ?
Non ! Cria Madame Kenwigs. « Je me moque de tout cela. »«
Et moi aussi, » dit Monsieur Kenwigs.
« Et je m'en suis toujours moqué. »
C'est ma sensibilité, dit Madame Kenwigs, qui a été lacérée sans pitié. C'est mon cœur qui a été déchiré par les plus tristes angoisses. J'ai été délaissée dans mes couches. Mon enfant inoffensif en est devenu tout grognon et tout mal à son aise. Morlina en est devenue à rien. Eh bien, tout cela, je l'oublie et le pardonne. Car je sens, mon oncle, je ne pourrai jamais me quereller avec vous. Mais ne me demandez jamais de la recevoir, elle, car je ne le veux pas. Non, je ne le veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas.
Suzanne, ma chère Suzanne, dit Monsieur Kenwigs, pas tant d'émotion, songez à votre enfant.
Oui, oui, dit Madame Kenwigs en poussant un grand cri.
Je veux songer à mon enfant, je veux songer à mon enfant à moi. Dont il n'a pas d'oncle qui puisse me dépouiller. Mon enfant, haï, méprisé, abandonné, qu'on a planté là.
Et ici, les sensations de Madame Kenwigs devinrent si violentes que M. Kenwigs s'empressa de lui administrer de la corne de cerf intérieurement, du vinaigre extérieurement, et de mettre en pièces un lacet de corset, quatre cordons de jupe et un certain nombre de petits boutons. Newman était resté spectateur de cette scène, car M. Lidivic lui avait fait signe de ne pas se retirer. Et M. Kenwigs lui avait fait ensuite un signe qui pouvait passer pour une invitation de continuer à les honorer de sa présence. Mais il était resté jusque-là spectateur silencieux. Alors, pourtant, il se permit de faire à Madame Kenwigs quelques représentations et de la supplier de se remettre, car il avait sur elle quelque influence. Ce que voyant M. Lidivic, il profita d'un moment de calme de sa nièce et lui dit d'une voix défaillante
« Ce n'est pas moi qui vous demanderai jamais de recevoir ma... Je n'ai pas besoin de vous dire quoi. Vous savez bien ce que je veux dire. Suzanne, et vous, Kenwigs, il y a 8 jours qu'elle s'est fait enlever par un capitaine à demi-solde. »
Tableau. Étonnement simultané de M. et Mme Kenwigs.
« Enlevé par un capitaine à demi-solde !» répéta M. Lidivic. « Honteusement, traîtreusement enlevé par un capitaine à demi-solde, une méchante trogne de capitaine à qui personne n'aurait jamais pensé !»« C'est ici, dans cette chambre, » continua M. Lidivic, en promenant tristement ses regards autour de lui, « que j'ai vu pour la première fois Henriette Petowker. C'est ici, dans cette chambre, que je la renie pour toujours !»
À la bonne heure. Voilà une déclaration qui changeait bien la face des choses.
Madame Kenwigs se jeta au cou du vieux gentleman, en se faisant des reproches amers, de la dureté qu'elle venait de lui montrer, et en s'écriant « Si j'ai tant souffert, combien, mon cher oncle, vous avez dû plus souffrir encore !»
Monsieur Kenwigs serra la main de son ancien protecteur et lui voua une amitié éternelle et un remords qui ne s'effacerait jamais. Madame Kenwigs fut saisie d'horreur en pensant qu'elle avait pu réchauffer dans son sein un pareil serpent, une couleuvre, un aspic, une vipère, un vil crocodile comme Henriette Petowker. Monsieur Kenwigs déclara qu'il fallait qu'elle fût tout cela et bien autre chose pour n'avoir pu se corriger en voyant si longtemps sous ses yeux l'exemple de la vertu de Madame Kenwigs. Madame Kenwigs se rappela avoir entendu dire souvent à Monsieur Kenwigs qu'il n'était pas édifié de la conduite de Miss Petowker et qu'il ne s'expliquait pas l'aveuglement de son épouse pour cette misérable créature. Monsieur Kenwigs se rappela bien quelques soupçons qui lui avaient traversé l'esprit, mais il ne s'était jamais étonné de ne pas les avoir partagés avec Madame Kenwigs, qui était la chasteté, la pureté, la loyauté même, pendant qu'Henriette était toute bassesse, toute fausseté, toute trahison. Mais Monsieur et Madame Kenwigs furent unanimes à déclarer avec la plus vive émotion et en versant des larmes de sympathie que c'était un mal pour un bien. Et ils conjurèrent ensemble le bon percepteur, au lieu de s'abandonner à des regrets stériles, de chercher sa consolation dans la société de parents affectionnés et fidèles, dont les bras et les cœurs lui seraient toujours ouverts. Par attachement et par estime pour vous, Suzanne et vous, Kenwigs, dit M. Lillyvick, car ce n'est pas par esprit de vengeance ou de ressentiment contre elle. Elle n'en vaut pas la peine. Je veux demain matin placer sur la tête de vos enfants, avec réversibilité, sur les plus vivants, à l'époque de leur majorité ou de leur mariage, l'argent que je voulais autrefois leur léguer par testament. L'acte sera exécuté demain. Et M. Nodge voudra bien être un de nos témoins. Il verra si je tiens ma promesse. Le moyen de résister à cette offre grande et généreuse. Monsieur Kenwigs, Madame Kenwigs, Mademoiselle Morlina Kenwigs sanglotèrent tous à qui mieux mieux. Et le bruit de leurs sanglots gagnant les chambres voisines, les petits enfants qui étaient au lit se mirent à faire chorus par leurs cris d'attendrissement. Monsieur Kenwigs, la tête perdue, se précipita et reparut bientôt les portant dans ses bras, deux par deux, et les déposant en bonnet de nuit et en chemise longue aux pieds de M. Lillyvick, pour qu'ils pussent de là faire monter vers lui l'expression de leurs remerciements et leurs prières au ciel pour son bonheur. « À présent, » dit M. Lillyvick, à la suite de cette scène déchirante, et quand on eut remporté les enfants, « à présent, donnez-moi quelque chose pour souper. Cela s'est passé à 7 lieues de Londres. Je suis arrivé ce matin, je suis resté toute la journée à badauder sans pouvoir me résoudre à venir vous voir. Moi qui ne la contrariais en rien, qui l'a laissée en liberté de faire tout ce qu'elle voulait, et voilà comment elle m'a récompensé. J'avais 12 petites cuillères et 6 francs en or, que j'ai bien regretté d'abord, ce n'est pas agréable à perdre. J'ai peur de n'avoir jamais la force de retourner soulever le marteau de mes contribuables pour frapper mon toc-toc accoutumé dans mes rondes. Mais je vous en prie, n'en parlons plus. Les petites cuillères pouvaient bien valoir... N'y pensons plus, n'y pensons plus !» Tout en marmottant ses regrets cuisants, le percepteur laissa couler une ou deux larmes, mais on le conduisit à un fauteuil où l'on obtint de lui, sans avoir besoin de trop parler, qu'il se décida à souper de bon cœur. Puis, quand il eut fini de fumer sa première pipe et absorbé une demi-douzaine de verres d'un punch de 6 francs, sacrifié par M. Kenwigs pour le retour de l'oncle au sein de la famille, comme autrefois le veau gras de l'enfant prodigue, il parut, quoiqu'il eût toujours l'oreille basse, résigné décidément à son sort, peut-être même plus satisfait qu'autrement de la fugue de sa femme. Autre tableau. M. Kenwigs enlace d'une main la taille de Madame Kenwigs. Son autre main soutint sa pipe qui, par parenthèse, le fait tousser et clignoter pas mal, car ce n'était pas un grand fumeur. Il repose ses yeux sur Morlina, assise elle-même sur un genou de son oncle, et s'écrie.
« Quand je vois cet homme respectable revenir se mêler encore à la famille dont il fait l'ornement, quand je vois ses affections se développer dans ses épanchements légitimes, je trouve que sa nature est aussi élevée et aussi étendue que sa situation sociale, où il joue un rôle si honorable. Et je crois entendre la voix de mes enfants au berceau, dont il a assuré l'existence, me murmurer doucement à l'oreille. Voici un événement que le ciel même regarde avec bonheur.